Kanyo.
Radio de la paix, il est 12h. Le journal du midi, Jean-Claude Mabéa.
Au sommaire de cette édition de l'actualité à la mi-journée de ce mercredi 15 mars 2023 sur Radio de la Paix. Prévention et lutte contre l'extrémisme violent au nord du pays. Un atelier de réflexion et de capitalisation s'est ouvert hier mardi à Korogo. Les échos en début de ce journal. Mise en œuvre de l'annexe fiscale 2023, le conseiller technique du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Daouda Kamagaté, a encouragé hier mardi 14 mars 2023 les populations ivoiriennes à plus de civisme. Mata Touré nous en dira plus dans cette édition. En page internationale, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est en Éthiopie ce mercredi pour vérifier l'application de l'accord de paix dans ce pays. Et puis, en fin d'édition, l'invité de la rédaction sera Maître Akemel Cristiano, chargé de projet et de la formation à l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Il reviendra sur le dossier des 26 militants du PPAC condamnés le jeudi 9 mars dernier à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public. Son organisation dénonce cette condamnation et il le dira dans cette interview avec Soro Adams en fin d'édition. Voilà pour l'essentiel. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons donc ce journal en nous rendant à Korogo où s'est ouvert hier, mardi 14 mars 2023, un atelier de réflexion et de capitalisation des activités de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans le nord de la Côte d'Ivoire sur initiative du National Democratic Institute, NDI, en partenariat avec l'Agence américaine pour le développement international, USAID, activité réunissant une centaines de participants. Les travaux porteront essentiellement sur le bilan des efforts consentis dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent au Nord, suivi de l'analyse des contraintes liées à cette lutte et porter la réflexion plus loin afin de mieux peaufiner l'approche sur le terrain pour une région du Nord apaisée. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
Le deuxième objectif du programme de transition et inclusion politique, mis en œuvre par l'Agence américaine pour le développement international, concerne la promotion de la cohésion sociale, la stabilité, la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Retenant en substance ces initiatives et actions concrètes du National Democratic Institute dans ce sens, selon son directeur résident, François Traoré.
Le NDI a mis en place des groupes de jeunes et de femmes à travers des associations villageoises, des paniers de crédit. Il leur a permis d'améliorer leurs conditions de vie dans les localités et, partant, faire en sorte de minimiser les risques de basculement de nos jeunes dans des aventures périlleuses pouvant les conduire à l'insécurité.
Le gouvernement américain accompagne et soutient cette dynamique au dire de Alpha Diallo, expert en aide au développement au sein de l'USAID.
Le Congrès a adopté le Global Fragility Act, la loi sur la fragilité mondiale. En Côte d'Ivoire, cela signifie travailler avec le gouvernement national sur des approches communes, travailler avec les structures locales des régions touchées, parler aux communautés de leurs préoccupations et de leur perception de la situation sécuritaire, engager les ONG locales à trouver des solutions aux signes d'insécurité.
Beaucoup reste à faire cependant en dépit de ces efforts consentis, notamment au niveau de l'implication des communautés que le préfet de la région du Porou, André Ponon, a souhaité plus efficiente afin de gagner la bataille contre l'extrémisme violent au nord de la Côte d'Ivoire. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
Intéressons-nous à présent au dossier des 26 militants du PPAC, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, condamnés le 9 mars dernier à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public. Et les réactions des défenseurs des droits de l'homme continuent de tomber. Amnesty International, via un communiqué dit mondial, demande à la Côte d'Ivoire de libérer sans condition les 26 condamnés du PPAC. L'Organisation de défense des droits de l'homme demande également la libération sans condition des 4 personnes arrêtées à Yopougon et détenue parce qu'elle portait des drapeaux de la Russie. Écoutons à cet effet Hervé Delmas Kokou, le directeur exécutif d'Amnesty International en Côte d'Ivoire.
Oui, nous le dénonçons parce que nous trouvons que ces militants sont détenus de manière arbitraire. De manière arbitraire, pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire dépasse la Constitution Et par rapport aux normes internationales, on voit que par cette décision, les décisions sont contraires à l'exercice des droits à la liberté, des réunions pacifiques, des libertés d'expression et des mouvements. Par conséquent, nous appelons simplement à la libération immédiate et inconditionnelle de ces personnes, ainsi qu'à l'annulation de la coordination de ces 26 personnes, et aussi l'abandon des charges éventuelles contre les 4 personnes qui ont brandi le drapeau russe lors des manifestations du PPACI à Yopougon et qui sont aujourd'hui détenues à la maison de correction, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan.
Et c'est via un communiqué que vous dénoncez et ce procès et les condamnations.
Tout à fait, c'est un communiqué mondial qui apparaît au moins dans 156 pays où existe Amnesty International. Et nous dénonçons ces conditions. Pourquoi ? Parce que c'est notre rôle. C'est notre rôle. Et la Côte d'Ivoire s'inscrit comme un état de droit. Et par moment, il peut y avoir des égarements. Et c'est notre rôle d'interpeller l'état de Côte d'Ivoire, d'interpeller les autorités à garantir des procédures judiciaires justes et équitables et à respecter les droits garantis par les conventions internationales et régionales pour la protection des droits humains ratifiés par la Côte d'Ivoire.
Hervé Delmas Kokou, le directeur exécutif d'Amnesty International Côte d'Ivoire, il était en ligne avec Soro Adams. Acte en faveur de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Près d'une cinquantaine de corps de victimes des violences de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011 ont été remis le mercredi 8 mars dernier à leurs familles lors d'une cérémonie à Guiglo. Selon le professeur Jean-Marie Kwaku, enseignant de littérature à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, observateur de la scène politique ivoirienne, cette remise de corps des victimes de cette crise à leurs parents est une étape supplémentaire dans le renforcement du processus de réconciliation nationale. Il s'en explique.
Il s'agit d'une œuvre de mémoire et cela peut intervenir, je crois, dans le cadre général, peut-être même à titre de préalable. Ça peut agir à titre de préalable dans toute la vaste entreprise de réconciliation que nous menons en Côte d'Ivoire actuellement. Donc pour moi, c'est un travail de deuil qui était nécessaire. Un travail de commémoration aussi qui était nécessaire. Parce que lorsqu'il s'agit de mémoire collective, donc de mémoire culturelle, c'est quelque chose qui touche à l'âme des peuples en fait. Parce que nous sommes tous dans la dimension culturelle ici, et la mort est le premier élément par lequel on comprend la culture d'un peuple. Alors respecter les morts, respecter les obsèques, respecter le rituel des rites funéraires, culturellement, à mon avis, c'est quelque chose de très très important et c'est très bien de le faire ainsi, même si ça ne prend pas en compte tous les disparus.
L'objectif, en tout cas, du gouvernement par ce geste-là, c'est de contribuer à la réconciliation. Pour vous, en quoi restituer ces corps pourrait favoriser une meilleure réconciliation en Côte d'Ivoire et spécifiquement dans cette partie du pays ?
Le retour des corps de mon point de vue, ça crée une espèce d'épurement, en fait. En réalité, ça reconnecte avec le spirituel. Et peut-être que le spirituel qui a été vexé, qui a été choqué, peut aider quelque part les Ivoiriens à dépasser la matière, à dépasser le corps pour venir vers des choses essentielles, des choses spirituelles, vers l'esprit. Et peut-être que tout ça peut contribuer à une pacification progressive.
Professeur Jean-Marie Kwaku, enseignant de littérature à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Par ailleurs, observateur de la scène politique ivoirienne, il était interrogé par Jean-Claude Comé. On s'intéresse à présent à l'annexe fiscale 2023. Le conseiller technique du ministre du budget et du portefeuille de l'État, Daouda Kamagaté, a exhorté les populations à plus de civisme fiscal. Il intervenait à la tribune d'échange du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, dénommé Tout savoir sur, qui a eu lieu hier mardi à Abidjan Plateau. Compte rendu signé, Matatouri.
Daouda Kamagaté a rappelé que l'annexe fiscale 2023 entrée en vigueur depuis le 9 janvier dernier constitue de 18 mesures et qu'elle a été élaborée autour de deux axes stratégiques que sont notamment le soutien à l'économie et le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales. Le conseiller technique du ministère du budget a souligné que la politique fiscale poursuivie au titre de l'année 2023 est principalement orientée vers d'une part la fiscalisation optimale des secteurs déjà fiscalisés et des opérateurs économiques non immatriculés au fichier des contribuables de l'administration fiscale. Et d'autre part, la poursuite de la politique sociale du gouvernement. L'année fiscale 2023, selon lui, s'inscrit dans la ligne droite de la politique de l'État de ne pas augmenter les impôts en Côte d'Ivoire. Daouda Kabangati.
C'est des engagements qui ferment. Ceux qu'on a augmentés, dont on vous a parlé dans ce droit d'assises, c'est pour atteindre le niveau que nous demandent les textes communautaires. Mais la plupart du temps, vous voyez qu'on n'a pas du tout augmenté les impôts. Plutôt, on a essayé de rationaliser, d'aménager le dispositif de sorte à le rendre plus optimum pour pouvoir financer notre budget dans ce sens-là.
Au niveau des mesures de soutien à l'économie, il a cité l'aménagement du seuil minimum d'investissement requis pour bénéficier de réductions d'impôts, de la mobilisation des ressources fiscales, concerne entre autres l'extension du dispositif de contrôle des flux de communication électronique des entreprises et de télécommunications aux activités de monnaie électronique et l'institution surtout de droits et d'amendes en matière de gestion du domaine public de l'État.
L'actualité nationale, c'est aussi le permis à points. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, vient d'organiser une conférence à débat autour du thème « Mise en œuvre du permis à points et les voies de recours ». C'était hier mardi 14 mars 2023 à son siège de Cocody où étaient présents quelques acteurs du secteur du transport. Junior Cardin y était également, suivant son compte rendu.
Koulou Edouard, secrétaire à la communication et aux relations extérieures à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, indique les motivations du thème « Mise en œuvre du permis à point et les voies de recours » choisies pour cette causerie débat.
Alors, pour la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il faut défendre tous les droits, surtout ceux des plus faibles. Et le gouvernement ivoirien a mis en œuvre le permis à point et le gouvernement communique sur les mesures, les sanctions. Nous avons estimé qu'il fallait également insister sur les voies de recours pour que les usagers de la route puissent connaître leurs droits. Nous avons une cellule juridique qui a pour rôle pour faire de l'assistance juridique et de l'assistance judiciaire.
Les voies de recours existent bel et bien pour les usagers qui ne comprennent pas ou qui ne se reconnaissent pas dans les infractions qui leur seraient attribuées par le système mis en place. Lucien Tiessé, directeur général des transports terrestres et de la circulation.
Lorsque le dispositif capte l'infraction, la plateforme a 8 jours pour notifier à l'usager. Suite à ça, lui également, il a 8 jours pour contester si tel est qu'il ne se reconnaît pas dans l'infraction qu'on lui reproche. En tout cas, le dispositif est là. Dans tous les CGI, vous pouvez faire les recours. Au CGIM, on peut également faire les recours. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous reproche, vous avez un deuxième niveau de recours, puis un troisième niveau qui est le tribunal de Sainte-Police.
On n'en est pas encore là, au dire du directeur général des transports terrestres et de la circulation. Toutefois, fait-il savoir, un certain nombre d'infractions ont déjà entraîné 1800 cas de retrait de permis depuis le 1er mars.
Retour à l'intérieur du pays pour poursuivre cette édition. Vaccination contre la COVID-19, santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. Les journalistes producteurs et experts en santé étaient réunis au cours d'un atelier du lundi 13 au mardi 14 mars 2023 à Yamoussoukro. Cette rencontre est une initiative de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, du ministère de la Santé et de la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire. Lors de la première journée, Dr Naounou Langwis Gogoua, chargé du suivi santé de la mère et de l'enfant et de la planification familiale de l'OMS à Bouaké, s'est prononcé sur la situation épidémiologique, la vaccination et sur les messages clés. On l'écoute dans des propos recueillis par Paul Bénédicte Boulou.
La première thématique, c'est de faire la situation de la réponse en matière de Covid et la deuxième, de parler de la vaccination de façon synoptique. La situation de la réponse, aujourd'hui, on a quand même une bonne évolution. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se font vacciner. Les cas positifs qui ont été guéris sont pratiquement à plus de 88 000 et les cas de décès sont relativement bas avec un taux de létalité qui tourne autour de 0,1%. Cette situation-là, c'est une situation de la semaine dernière, mais qui fait un cumul depuis la lutte. Donc pour l'heure, je pense que le pays est en une bonne voie quand même en matière de lutte contre. Et la seconde présentation, elle était relative à la vaccination. Aujourd'hui, on a une cible qu'on a ajoutée qui est la femme enceinte et les femmes allaitantes. Pour l'heure, on a des valeurs absolues. On espère avoir une bonne couverture. Là où il y a le problème, c'est les enfants de 12 à 17 ans. Avec toutes les données collectées, ça et là, par le ministère, l'analyse a montré que les 12 à 17 ans, il y a une faible couverture au niveau de certaines régions de l'Est de la Côte d'Ivoire passant par le sud, sud-est et remonter un peu vers le centre du pays. Donc, il y a beaucoup à faire. Donc, c'est d'amener la population non-parents à pouvoir faire vacciner leurs enfants de 12 à 17 ans. Parce qu'en définitive, il s'agit de pouvoir donner la caution pour que l'enfant puisse se faire vacciner. C'est de vraiment sensibiliser les parents pour que les enfants ne puissent pas avoir la maladie et contaminer aussi leur père et même leurs parents.
À l'instant, Dr Naounou Langwis Gogoua, chargé de suivi santé de la mère et de l'enfant et de la planification familiale de l'OMS, à Bouaké. De Yamoussoukro, on met le cap sur Daloa, où le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, en collaboration avec la direction de la coordination du Programme National de la Santé Oculaire, a initié une campagne de dépistage et de chirurgie gratuite de la cataracte à Daloa. Cette campagne gratuite est une opportunité pour les populations, car le coût du traitement et de la prise en charge de la cataracte constitue une barrière à l'accès aux soins de santé pour de nombreux malades. Compte rendu signé Jean-Noël Kouamé.
Le parrain de cette campagne, le ministre Mamadou Touré, revient sur les motivations de cette opération de dépistage et de traitement de la cataracte.
Nous avons souhaité que dans la région, des personnes potentiellement atteintes de cataracte puissent être traitées. C'est un véritable problème pour nos parents dans le milieu rural. Aujourd'hui, nous avons une équipe médicale mobilisée, une d'Abidjan, qui traite donc ces parents qui sont de toute la région. Et nous allons voir comment pérenniser une telle opération pour le bonheur des populations du Haut-Sassandra.
La chargée de promotion de la santé oculaire et des relations publique au Programme national de la santé oculaire, Nathalie Guilavogui invite les populations à se faire dépister.
La cataracte, c'est l'opacification du cristallin. Il n'est pas recommandé que l'on attende les vendeurs ambulants de médicaments, de soins oculaires dans les campements et c'est même interdit par la loi. J'encourage toute la population à se faire dépister dans les hôpitaux, les centres d'ophtalmologie.
Après leur passage au bloc opératoire, quelques patients expriment leur satisfaction.
Pour faire l'anesthésie, environ 10 à 15 minutes, dans le bloc même 15 minutes, 20 minutes, à moins d'une heure, on t'a traité, c'est fini. Grand merci à monsieur le ministre.
Madame Seibi Samake Salimata, aujourd'hui j'ai retrouvé la vue. Je remercie tous ces médecins, chirurgiens qui ont fait l'opération. On n'a rien payé et c'est pas douloureux.
Cette campagne qui a démarré ce jeudi 9 mars à Daloa s'achève le 24 mars prochain et prend en compte 400 patients. Jean-Noël Kouamé, Daloa, Radio de la Paix.
Un mot de l'actualité sur le continent africain. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Addis Abeba en Éthiopie ce mercredi, premier pays de sa tournée africaine. Une visite qui intervient alors que les relations entre les deux pays se sont dégradées depuis le début du conflit au Tigré en 2020. L'accord de paix signé le 2 novembre entre le gouvernement du premier ministre Abiy Ahmed et les rebelles tigréens prévoit entre autres le désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré ainsi que la réouverture des accès et communications vers la région. Washington entend faire pression pour s'assurer du bon respect de cet accord et c'est pour ce faire que le numéro 2 américain s'est déplacé. Mais cette visite ne marque pas un retour immédiat à la normale entre Addis Abeba et Washington, a insisté Molly Fee, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Il s'agit plutôt de remodeler les relations entre les deux pays, apprend l'agence France-Presse. Sans transition, on passe à l'invité de la rédaction et notre invité aujourd'hui est Maître Akemel Cristiano. Il est juriste, responsable des projets et de la formation à l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Reçu par Soro Adams, il reviendra dans quelques instants sur le dossier des 26 militants du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, arrêté le 24 février 2023 et condamné le jeudi 9 mars 2023 à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public. Il dira pourquoi son organisation dénonce cette condamnation. Maître Akemel Cristiano, invité de la rédaction de Radio de la Paix, c'est un entretien que nous vous proposons de suivre maintenant.
Bonjour Maître Akemel Cristiano.
Bonjour Monsieur Adams.
L'OIDH, votre organisation, a donné de la voix ce lundi 13 mars 2023 dans l'affaire de la condamnation des militants du PPACI.
Oui.
Alors, pourquoi vous êtes-vous senti interpellé par ce dossier?
Nous sommes sentis interpellés par ce dossier parce que nous y voyons une restriction des libertés. Nous pensons que si ces restrictions qui nous paraissent graves ne sont pas corrigées, elles sont de nature à être la cause, hein, de graves crises qui pourraient surgir, surtout au cours des élections à venir, élections locales de 2023 et de 2025. chez nous la Constitution ivoirienne de 2016 en ses articles 20 et 21. Ces dispositions garantissent la liberté d'aller et de venir, d'opinion, de manifestation et de réunion. L'OIDH observe que depuis décembre 2022, il y a une sorte de menace et une restriction sérieuse, pour ne pas dire grave, à la limite sur l'exercice des libertés susmentionnées. Le jeudi 9 mars 2023, sous le prétexte d'atteinte à l'ordre public et donc de troubles à l'ordre public, 26 de nos concitoyens ont été condamnés à des peines de prison ferme. Certaines questions surgissent, comme celle de savoir si le soutien à l'un des leurs est constitutif de troubles à l'ordre public. Ce soutien était soumis à une autorisation préalable de l'autorité? A-t-il été mentionné des débordements graves lors de ce soutien? Monsieur Soro, l'OIDH n'a rien contre la notion d'ordre public, qui est d'ailleurs un fourre-tout. Le politique, la puissance publique peut tout y mettre. L'OIDH continue d'observer que des restrictions sur la liberté fondamentale ont cours.
Et donc, que dites-vous?
Nous disons que si l'État ne prend garde, ces restrictions qui paralysent l'expression démocratique et qui évidemment portent atteinte aux libertés fondamentales sont source de violation des droits de l'homme. Ces restrictions rappellent ou avertissent qu'il y a un danger à l'horizon.
Danger à l'horizon, vous avez dit?
Oui.
Expliquez-vous.
Oui, mais vous savez que le pays a traversé d'importantes crises graves par le passé. Et ce sont les mêmes causes, les mêmes démarches qui reviennent, les mêmes facteurs causaux qui reviennent, on constate, on observe. Donc on appelle l'État de Côte d'Ivoire à la vigilance. À revoir un peu.
Autrement dit, ces restrictions de liberté sont de nature à amener à des troubles dans le pays?
Oui. Oui. L'OIDH part de facteurs, de faits objectifs, et nous sommes en train de reprendre les mêmes copies.
C'est-à-dire?
Je vais dire les mêmes causes qui sont à l'origine de crises, des crises précédentes, sont en train de se mettre en mouvement.
Et donc, message?
Oui, de faire attention à ces restrictions. De faire attention à ces restrictions. De revoir ces restrictions. Pour ne pas que nous retombions dans les mêmes travers qu'hier. Les mêmes causes reproduisent les mêmes effets, M. Adams. La Côte d'Ivoire doit faire attention. Attention. Attention.
Je vous remercie, Maître Cristiano.
Merci, monsieur.
Je rappelle que vous êtes...
Je suis juriste, je suis chef des projets et de la formation à l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH.
Bonne journée, maître.
Merci, monsieur Adams. Bonne journée à vous.
C'est sur cet entretien que se referme cette édition, le rappel de l'essentiel. Prévention et lutte contre l'extrémisme violent au nord de la Côte d'Ivoire. Un atelier de réflexion et de capitalisation s'est ouvert hier mardi à Korogo. Vous avez eu les échos avec Marcel Bonny en début de ce journal. Et en page internationale, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est en Éthiopie ce mercredi pour vérifier l'application de l'accord de paix dans le pays. Merci de nous avoir suivis. Je serai des vôtres à 15h pour un flash d'information. Dans un court instant, la revue de presse de Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. La coopération entre le Fonds monétaire international et la Côte d'Ivoire se renforce avec, rapporte Fraternité Matin, l'annonce hier d'un nouvel accord financier.